Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonsoir à chacun et nous allons ouvrir notre Bible sur un sujet qui va nous encourager à faire confiance au Seigneur, hein, parce que le but de l'Évangile, c'est de susciter de la foi dans nos cœurs. Ça, c'est le but premier, c'est que véritablement, en entendant cette parole, ces promesses de Dieu, eh bien, nous puissions vraiment, toujours de plus en plus, lui faire confiance. Alors, premier texte, nous allons le lire, nous allons le prendre dans la fin de notre Bible, dans l'épître de Jacques, la lettre de Jacques, et au verset 17, voilà, il nous est parlé d'un personnage, un homme remarquable, un homme qui a vraiment touché du doigt, eh bien, les possibilités infinies de Dieu. On appelle ça des miracles, voire plus, des prodiges. Alors, il s'agit d'Élie, et c'est donc Jacques, hein, l'auteur de cette lettre, qui parle de lui, et il est dit ceci, donc, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà ce qu'il nous est dit, voilà ce qu'il nous est rappelé. Pourquoi cette référence et pourquoi cet auteur de du Nouveau Testament, eh bien, nous parle-t-il d'un homme qui vivait il y a très très longtemps, qui était connu sous le nom du prophète Élie, qui a fait des choses extraordinaires, qui a été appelé par Dieu, et malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de son ministère de prophète, hein, pour ramener Israël, le cœur d'Israël, à la foi en son Dieu, dans le Dieu d'Israël, eh bien nous apercevons que Dieu était avec cet homme. Et il l'a été d'une manière formidable et admirable. Et si très souvent, eh bien, les choses ont été dangereuses, périlleuses pour Élie, eh bien, Dieu était avec lui. Et voilà, il nous est rapporté un épisode que nous allons voir d'ici quelques instants dans son histoire dans l'Ancien Testament. Il nous est parlé d'abord de ce qu'était cet homme. Il nous est dit qu'il était semblable à tous les autres hommes qui ont paru sur la terre. Il nous est simplement dit que c'était un homme de la même nature que nous. C'était pas un surhomme, c'était pas un demi-dieu, c'était pas en effet un Superman, comme on pourrait peut-être le dire aujourd'hui, c'est un homme comme les autres. Un homme comme nous pouvons l'être encore aujourd'hui, mais à une grande différence par rapport à la multitude des hommes de notre temps, des hommes de ce monde, c'est qu'il avait une grande foi en Dieu. Un homme de foi. Un homme avec cette confiance extraordinaire dans le Dieu qu'il connaissait pour être le Dieu de son peuple, mais un Dieu qui restait quand même, comme pour nous, un Dieu invisible. Et nous nous apercevons qu'il soulignera, Jacques soulignera, il dira, mais ne cherchez pas à être comme Élie, puisque Élie est comme vous. C'est-à-dire qu'il est semblable, eh bien, à tous les hommes qui ont paru sur la terre, rien de plus et rien de moins. Et il nous est simplement rappelé, tout de suite après, il nous est dit qu'il a prié. Alors, des hommes qui ont prié, dans toute l'histoire, il y en a eu. Maintenant, savoir qui l'ont pris, de la façon dont on prie, ça c'est une autre affaire. Mais en tous les cas, Élie savait qu'il priait son Dieu. Et un Dieu qu'il détenait, eh bien, toutes les capacités de l'univers. C'est pour cela qu'il pouvait l'appeler Dieu Tout-Puissant. Donc il a prié, mais il n'a pas prié n'importe comment, il a prié avec instance. Il a prié, si vous voulez d'autres mots, avec persévérance. Il a prié avec pugnacité. Il a prié avec une détermination Eh bien, on pourrait peut dire incroyable, si l'on veut prendre des choses toutes simples. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé qu'il ne pleuve pas, ou qu'il ne pleuve plus. Et vous savez que, bon, chez nous, la pluie, elle a sa raison d'être, et on a un pays très vert. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de pluie, surtout dans notre ouest France. Alors, c'est quelque chose auquel nous nous sommes habitués. Mais imaginez-vous, dans les pays orientaux, dans les pays du Moyen-Orient, pas de pluie, pas de vie. Hein. C'est ça ce que l'on peut dire. Il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire que la sanction, elle va vite se manifester. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus rien du tout. Et lui, il a prié d'une manière tout à fait particulière, qu'il ne pleuve point. Alors peut-être que nous, on pourrait penser, nous, les hommes de notre 21e siècle occidentaux, on pourrait dire parce qu'il pleuvait trop. Non, c'est parce qu'il ne pleuvait pas trop. Mais moi, je vais vous dire pourquoi il ne pleuvait plus. C'est parce que le peuple d'Israël péchait de trop. Et ça fait partie d'une particularité qui était finalement, eh bien, là, en lien avec le peuple d'Israël dans ses relations avec son Dieu et Dieu dans sa relation avec Israël, le peuple élu, que à partir du moment où le peuple d'Israël abandonnait son Dieu, que là, eh bien, il ajoutait mal sur mal, injustice et toutes sortes de choses, Dieu les avait prévenus hein, à la sortie d'Égypte, il leur a dit, écoutez, voilà, si vous m'obéissez, si vous m'aimez, si vous observez mes commandements, eh bien, moi, je vous enverrai la pluie de la première, de l'arrière-saison, je vous garantirai de la maladie, et puis je vous donnerai du pain à satiété, enfin bon, tout ce qui est nécessaire à la vie. Mais par contre, Dieu dit, si vous m'abandonnez, pour aller vous tourner vers des idoles, vers des faux dieux, vers des choses qui sont des choses de néant, telles que la magie et l'occultisme, alors à ce moment-là, je fermerai les écluses des cieux, et il ne tombera plus de pluie sur votre pays. Conséquence, c'est qu'il ne pourra y avoir ni semaille, donc pas de récolte. Et s'il n'y a pas de récolte, eh bien il n'y aura pas de pain. Et s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas la vie. Et ce qui remplace naturellement tout ça, eh bien c'est la mort. Tout simplement. Alors, il a prié pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre. Il a prié et il a été exaucé. Il a demandé à Dieu la cessation des pluies, et c'est ce qui s'est passé, parce que on voit le résultat, c'est pas écrit avec beaucoup d'explications, mais c'est suffisant, qu'il ne pleuve point, et de fait, eh bien, il n'est pas tombé d'eau sur la terre, et imaginez-vous, c'était pas 3 jours, c'était pas 3 mois, c'était 3 ans et demi. Alors, on peut voir, je ne sais pas si le mot catastrophe est suffisant, cataclysme, il y a certainement des mots qui désignent quelque chose d'impensable et d'incroyable dans la dévastation et dans la désolation, surtout en Orient. Chez nous, ça serait terrible. Hein. Déjà, quand on passe un mois ou 2 mois, voilà, et on commence à dire bien restriction, restriction un peu de tous les côtés. Quand il y a trop d'eau, on dit la même chose, mais dans le sens contraire. Alors, ça c'est... C'est difficile là, de contenter tout le monde avec le beau temps et puis la pluie. Hein. Très difficile, heureusement qu'il n'y a pas de référendum, parce que là, il y aurait vraiment quelque chose qui se passerait. Alors, ça, c'était la fermeture. Et il nous est dit, puis Élie pria de nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On va le voir. Et le ciel, il semble que Élie fasse la pluie et le beau temps, hein, comme on dit. Hein. Il semble que Élie... Eh bien là, dirige le ciel, dirige la nature, il parle comme si c'est Dieu qui parlait lui-même, vous vous rendez compte? On le trouve, hein, ça c'était vraiment la caractéristique d'Élie, dans son obéissance et dans la manière dont Dieu écoute cet homme qu'il a suscité comme prophète. Alors, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie, et logique, la terre produisit son fruit. Vous savez, il faut très peu de temps. Même sur un sec, un sol desséché, aride au possible, pour que tout reprenne en quelques jours. Il y a une partie du désert en Afrique du Sud, je ne sais plus le nom. Pendant 350 jours, 340 jours, c'est la dévastation, c'est des blocs de, enfin, comment dire, des blocs de terre qui sont, avec des crevasses profondes et tout ça. Et il y a une période dans l'année, ça dure à peu près 3 semaines. Et c'est curieux parce que bon, on l'a vu en vidéo, c'est assez extraordinaire. Il y a un moment donné, je ne sais plus à quelle époque, la pluie arrive. Et elle va mouiller, mais alors jour et nuit, pendant 2-3 jours. Et à ce moment-là, 3-4 jours après, ça pousse d'une manière extraordinaire. Les fleurs, le désert est en fleurs. C'est extraordinaire, avec toutes sortes d'espèces, toutes sortes d'arbustes qui poussent, surtout des fleurs. Et à perte de vue, le visiteur, eh bien, il marche sur un tapis de fleurs. 3 semaines après, tout s'est arrêté. Et puis, le désert reprend pour des mois et des mois, eh bien, tout simplement, sa nature aride et de sécheresse. Et nous voyons que dans le texte qui nous est donné, le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Alors, on va aller un peu plus loin et puis expliciter un petit peu cette histoire d'Élie. Donc, nous avons lu ce texte, ce premier texte, mais dans... toujours Jacques, hein, je vais vous le citer. Dans ce même chapitre, il nous est dit au verset 16, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il nous est dit. Écoutez bien, c'est juste avant, on a lu le verset 17. Mais le début, on peut dire ça comme ça. « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Donc il y a là naturellement une notion de relèvement, de rétablissement, hein, de refleurissement de la vie, on pourrait dire. Mais la suite est intéressante parce qu'elle explique en quelque sorte, il est dit « la prière agissante » dans ma Bible. Mais peut-être dans votre Bible, c'est traduit par un autre mot. « La prière fervente ». C'est pas la prière, vous savez, que l'on prononce avec l'indifférence des mots et de l'âme. Non, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je pense que ce n'est pas encore dit assez fort. La prière du juste. Le juste, qu'est-ce que c'est? Le juste pour Dieu, c'est celui qui croit. C'est celui qui a la foi. C'est celui qui met sa confiance totale et absolue en Dieu. Il est juste auprès de Dieu. Même s'il reste un homme, comme Élie, comme nous-mêmes, de la même nature que tous les autres hommes, mais à la différence, c'est qu'il croit. Et dans sa foi, il l'exprime par la prière. Alors, à ce moment-là, il nous est dit, mais la prière agissante du juste a une grande efficacité. On pourrait dire, elle a un pouvoir miraculeux. Elle a un pouvoir d'une grande autorité, on peut le dire de cette manière. Alors, on va aller voir maintenant dans le livre dont il nous est parlé, donc Élie, cet homme qui s'appelle Élie, prophète de Dieu, dans 1 Rois, chapitre 17, on va lire simplement un verset là, et qui va nous rappeler ce que nous avons lu il y a un instant. Hein. Alors, 1 Rois, chapitre 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, c'est le roi d'Israël, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Et il va dire au roi, « Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Vous avez remarqué, il aurait pu dire « sinon à la parole de Dieu ». Il parle qu'il est le serviteur de Dieu. L'Éternel est vivant, je suis son serviteur, c'est le Dieu d'Israël, et il va déclarer, sinon à ma parole. Quand vous lisez ça, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Il se prend pour Dieu. Non, c'est que Dieu lui a donné le mandat que tout ce qu'il dirait, selon l'analogie de la foi, eh bien Dieu exaucerait son serviteur comme si c'était Dieu qui l'avait dit. Et ça, c'est vraiment un summum de confiance et de foi. Alors, on a lu ça nous avait déjà été rappelé, je vous l'ai dit, la pluie s'est arrêtée de tomber à cause des fautes d'Israël, à cause des révoltes d'Israël, de ses rébellions, plus d'eau, plus rien, plus de vie. On est toujours dans le livre des Rois, chapitre 18, maintenant, verset 41, et voilà l'histoire. Voilà, il nous est dit, Élie, dit à Akab, donc, je vous ai dit qui était Akab, le roi d'Israël, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Voilà. C'est le prophète, et il n'est pas prophète pour rien, parce qu'il va dire au roi d'Israël, après ces 3 ans et demi de dévastation, d'aridité, de famine et de tous les malheurs possibles et inimaginables, alors il va lui dire « Maintenant, il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, pendant et se penchant contre terre, Élie mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer, du côté de l'Occident. » Le Carmel, c'est une petite montagne en Israël, en Palestine, si vous voulez aller par là. Et il devait se tourner vers la Méditerranée, pas du côté de la mer Morte qui est à l'est, mais du côté de l'Occident, du côté de l'Ouest. Et on comprend pourquoi l'eau vient de ce côté. Chez nous, elle vient toujours de ce côté, du côté de l'Ouest. On sait que eh bien, les choses apportent ainsi, cette orientation apporte la pluie. Alors il est monté au sommet du Carmel, il s'est penché contre terre, il a pris son visage et il l'a mis, eh bien là, tout simplement entre ses genoux, et il s'est adressé à son serviteur, l'homme qui était à côté de lui, lui dit « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit « Il n'y a rien. » Il n'y a rien. Élie lui dit 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois. Retourne. Retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char, il partit pour Jisréel et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jisréel, là où était le palais du roi. C'est moi qui l'ajoute. Alors nous avons cette histoire expliquée maintenant. Elle est prise en référence de l'autorité de la prière de foi par Jacques, nous l'avons dit tout à l'heure, et nous voyons que juste avant il s'est passé quelque chose de particulier sur ce mont Carmel. Le mot Carmel veut dire tout simplement un lieu fertile, un lieu fertile environné d'une nature qui était désolée. Mais là-haut ici, s'il n'y avait pas de pluie là-haut, il n'y avait pas de pluie en bas, il y avait dans les deux sens, hein. On peut le comprendre comme ça. Qu'est-ce qui s'était passé avant cette scène là où nous voyons la prière de l'exaucement? Élie avait rassemblé tous les prophètes, les faux prophètes, les bonimenteurs, les magiciens et tous ceux qui se donnaient être au service de Dieu et qui ne l'étaient pas, qui servaient les idoles, qui servaient, eh bien là, les faux dieux qui racontaient n'importe quoi, qui prophétisaient n'importe quoi et qui faisaient n'importe quoi. Et le peuple, naturellement, suivait ces faux prêtres, ces faux, comment pourrait-on dire, ces faux prophètes. Le peuple d'Israël avait beaucoup plus confiance dans le mensonge de ces gens-là que dans la vérité du prophète Élie qui leur disait, eh bien écoutez, revenez vers Dieu, parce qu'il est votre Dieu. Revenez vers lui, croyez en lui, mettez votre confiance. Et à un moment donné, eh bien, Élie les a rassemblés, tous ces prophètes, il y en avait 430 et quelques, qui faisaient la pluie et le beau temps, comprenez? Là, ils ont fait... hein, on comprend que devant une telle idolâtrie, il y a eu une fermeture du ciel. Et c'était la cause, hein, d'ailleurs, entre autres. Et nous apercevons que là, il y a eu véritablement... hein, le problème de la fausse religion d'Israël va être tranché à ce moment-là. Vous lirez le texte, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous lirez. Hein. Il va y avoir un miracle de Dieu qui va se manifester par un feu, qui va descendre sur un autel, qui va être inondé d'eau, cet autel. Et le feu, venant du ciel, va consommer l'eau, les pierres, il ne restera plus rien du tout. Pour montrer que Dieu est Dieu, que Dieu est puissant, et que c'est lui qui est encore le maître de la terre, et qui est encore celui qui veut voir son peuple d'Israël revenir à lui, se repentir et revenir à lui. Donc ça, c'est l'histoire précédente. Alors Achab se trouve là. Achab, c'est un mauvais roi. C'est un roi méchant. C'est un roi qui ne croit pas en son Dieu. C'est un roi qui est persécuteur. C'est un roi criminel. Alors, Élie va lui dire, écoute, Achab, tu montes, tu manges, tu bois, hein, parce que moi, je vais te dire une chose. C'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est que, eh bien, la pluie que vous attendez, la pluie que vous suppliez avec vos faux prophètes, avec tous ces gens qui font de la magie et d'occultisme, elle n'est jamais venue hein, pendant 3 ans et demi, hein, et vous pouvez attendre longtemps. Mais moi, je te dis maintenant, de la part de Dieu, que j'entends un bruit qui vient, et ce bruit, il va apporter la pluie. Donc, il va apporter la vie, il va y avoir un renouveau, il va y avoir une résurrection dans le pays d'Israël. Un bruit qui annonce la pluie. Ben moi, je voudrais vous dire quand même, si je m'écarte un petit peu, mais j'aurais quand même vous dire que l'évangile, c'est quand même le bruit qui apporte, eh bien, la pluie de la bénédiction de Dieu et qui apporte l'annonce du salut, hein. Et je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui l'entendent, mais toujours est-il que c'est ça, quelque part, hein. La pluie de la bénédiction, la pluie de la délivrance, la pluie de la guérison, la pluie du salut et du pardon. Alors, ceci dit, un bruit qui annonce la pluie. Alors Akab monte pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, alors nous le voyons là se mettre dans une fervente prière, dans une instante prière, je dirais même une supplication, une intercession, peut-être de cette dimension que Jésus a manifestée dans le jardin de Gethsémané, parce qu'à ce moment-là, quand Jésus a prié, il nous a dit que des grumeaux de sang, tellement la prière était intense, tellement elle était forte et impressionnante, et ça devait être une prière semblable, hein, d'une grande intensité spirituelle. Alors il a dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer, et le serviteur est monté, il a regardé. Vous remarquez que le mot Carmel, ça veut dire lieu fertile, hein. C'est important. Il ne l'était plus, là, à ce moment-là. Mais il y a une chose que j'observe dans l'étude de ce texte, c'est que vous remarquerez qu'il y a un verbe qui revient 7 à 8 fois. Vous l'avez remarqué? C'est le mot « monter », c'est le verbe « monter ». Il monta, il monta, il monta. Enfin, plusieurs fois, 7 fois. Pourquoi cette répétition du verbe monter qui, pour tout un chacun, dans la compréhension de notre langue, ça veut dire s'élever. Ça veut dire, eh bien, tout simplement, eh bien là, aller un petit peu plus haut que ce que l'on est. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a ce roi impie, Akab, qui monte, lui, pour manger, pour boire, et dans la fin du texte, pour partir. Ça n'a pas trop de sens et ça n'a pas d'intérêt spirituel. Sinon, les choses de la terre. Il monte pour boire, il monte pour manger. Enfin, je ne sais pas s'il lui restait encore un peu d'eau. S'il n'y avait plus d'eau, il y avait peut-être autre chose à boire. Hein. Et ensuite, il monte pour partir. Il y a également le serviteur d'Élie, sur l'ordre de son maître, qui monte pour regarder, scruter un hypothétique avenir. Il va sur la montagne, il est au plus haut de la montagne, sur un promontoire, et son maître lui a dit, tu regardes dans cette direction, tu regardes du côté de la mer. Alors il y va, il monte, lui. Il est déjà dans des dispositions parce qu'il obéit, en quelque sorte. Il regarde, il ne voit rien. Il scrute de tous ses yeux, parce que là, il est certainement là pendant un bon bout de temps, et à chaque fois qu'il revient, et qu'il revient vers Élie, qui est en prière, et qu'à chaque fois qu'il revient, qu'est-ce que t'as vu? J'ai rien vu, je ne vois rien. Vous savez, ça ressemble un peu aux murailles de Jéricho, hein. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, vous ne voyez rien, vous entendez rien et rien ne se passe. Et la sixième fois, le prophète lui dit, ben, remonte maintenant. Tu vas encore une fois. Et puis, il y a également Élie qui monte, lui, pour prier. Ouais. Il est déjà sur une montagne, Élie. Il est déjà sur la montagne qui nous rapproche de Dieu, qui le rapproche de Dieu. Mais lui, au lieu de regarder ce qui se passe de droite et de gauche, eh bien, il baisse le visage, il est en haut, il monte sur la montagne du Carmel, le lieu fertile, parce que c'est une signification que s'il est appelé comme ça, c'est qu'il y a une fertilité, il y a une fécondité, il y a quand même quelque chose à attendre sur le mont Carmel. Et lui, il met sa tête, finalement, eh bien, dans ses genoux, l'image de l'humiliation profonde et d'un investissement, d'un effort considérable qui ne se voit peut-être pas dans les gestes extérieurs, mais au niveau de son âme, de son cœur, au niveau de sa propre profondeur d'être, alors là, il est investi. On ne peut pas s'imaginer. Alors il monte pour prier. Et puis il y a une dernière chose qui n'est pas un homme, mais c'est le petit nuage qui s'élève. Le petit nuage qui monte, vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ce petit nuage? On va en parler tout à l'heure. Il y a des gens qui parlent dans les petits nuages comme ça, vous comprenez, hein? Ils sont dans les nuages, on le dit, dans la lune, parce que c'est l'image de finalement s'élever. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais justement donner quelques cas de rappel, des prières ferventes, des prières d'investissement, mais alors totales. Vous souvenez de l'histoire d'Abraham, lorsqu'il apprend que les villes de Sodome et Gomorre vont être détruites par le feu, parce qu'elles se sont révélées comme étant abominables devant Dieu, à travers le péché, à travers la méchanceté, à travers des déviances contre nature et toutes sortes de choses, le crime, le sang, toutes sortes de choses. Abraham, c'est un homme de Dieu. C'est un Élie avant Élie. Et quand il sait qu'il va y avoir une région entière qui va être complètement dévastée, brûlée, anéantie, alors à ce moment-là, il va se tenir devant Dieu. Il va prier une fois, il va prier deux fois, il va prier, il va faire le décompte même. Il va dire, mais s'il y a encore 50 justes dans cette ville, Seigneur, pardonne-leur et épargne-les. Dieu lui dit non. S'il y a 40 justes, Seigneur, pardonne-leur. Dieu lui dit non. S'il y en a 30, s'il y en a 25, s'il y en a 20, etc., etc. C'est l'image de l'investissement d'un homme de foi, d'un homme qui pleure sur le péché, d'un peuple, d'une ville, d'une région. Et vous savez, quand il est dit confessez vos péchés les uns les autres, etc., etc., on est toujours dans la même pensée. Hein. Israël, du temps d'Élie, avait péché. On connaît. Du temps d'Abraham, Sodome et Gomorre avaient péché. Lorsque nous voyons Moïse, l'affront du veau d'or, Dieu dit maintenant, je raye ce peuple de la surface de la terre. Je détruis son peuple. J'extermine mon peuple. Abraham, après, donc Moïse, eh bien, va se tenir devant Dieu et va lui dire, il va plaider. Il va dire, mais Seigneur, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, à bras élevés, à mains puissantes. Mais qu'est-ce que vont dire ses ennemis si tu l'as fait passer là, et qu'il t'est arrivé là, et que ça soit toi qui le détruises d'une manière ou d'une autre, mais tous les ennemis de la terre vont se moquer, puisque tu as fait de ce peuple ton témoignage. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et il nous est dit que l'Éternel se repentit du mal qu'il avait envisagé de faire à Israël à ce moment-là, et le péché est pardonné. Le péché est pardonné. La prière. Plus près de nous, vous avez aussi cette veuve qui est confrontée avec un juge inique. Et il nous est dit qu'elle priait jour et nuit pour obtenir justice, parce que elle était traitée avec la plus monstrueuse des injustices. Elle était veuve, elle n'avait plus rien. Elle avait encore droit à quelque chose et elle est venue plaider devant un juge qui s'en moquait, qui était un juge injuste, inique, abominable, et qui l'a renvoyé toujours aux calendes grecques en disant ben, « elle reviendra plus tard, après tout, c'est une pauvre femme, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle ». Et il nous est dit qu'elle a pleuré jour et nuit, elle implorait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il nous est simplement dit dans le texte que Dieu lui a fait justice, comme Dieu fait justice aujourd'hui à ses élus qui crient à lui jour et nuit pour obtenir gain de cause. La prière fervente de la foi, encore une fois de plus. Que dire encore? Il y en a plein comme ça. Pour nous faire la démonstration de cette autorité puissante de la prière. Et qu'est-ce que nous pouvons imaginer, qu'est-ce que nous pouvons dire? Des miracles, des centaines et des centaines de miracles de Christ qui font foi de cette prière. Jésus marchant sur les eaux, également priant de très bonne heure le matin en prévision des journées qu'il devait accomplir pour œuvrer pour l'œuvre de Dieu, qui était émaillée avec des choses formidables, des guérisons, à travers des délivrances, à travers la multiplication des pains, l'eau changée en vin, la résurrection des morts, et ceci et cela, etc., etc. La prière de Jésus. La prière fervente du seul qui pouvait dire le juste. Il le dira dans une prière. Père, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Voilà. C'est extraordinaire tout ça. Alors monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Alors si nous regardons avec nos yeux, nous ne verrons rien. Si les yeux de notre cœur sont illuminés sur le lieu fertile et à la bonne place, alors à ce moment-là, nous allons voir ce que les autres ne verront pas. Et moi, je dis qu'être chrétien, c'est voir, c'est comprendre et c'est vivre des choses qui nous sont réservées, qui sont cachées aux incrédules et qui ne verront jamais, au grand jamais ils ne verront, mais qui sont révélées pour chacun d'entre nous et qui fera bien la différence entre le croyant et l'incrédule, celui qui ne croit point. Alors, Élie lui a dit, cette fois avec cette persévérance, retourne. Et nous savons que le serviteur est remonté, il a regardé, il est redescendu, il n'y a encore rien, tu remontes, tu recommences. Ah, quel serviteur! Il aurait pu dire, dis donc. Bon, on pourrait peut-être pas attendre demain matin, parce que moi je commence à être fatigué de monter. Ben oui, mais justement, c'est ça la démonstration de la foi. Parce que si véritablement nous croyons à ce qui nous a été dit, eh bien nous n'allons pas nous fatiguer, ou même si quand nous nous fatiguons, eh bien le Seigneur va passer nos fatigues, et va nous donner une énergie que nous ne pourrions pas finalement avoir naturellement. Parce que nous avons cette force que nous donne, eh bien notre confiance en Dieu. Alors il est retourné, et à la septième fois, le serviteur dit à Élie, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, mais qui est gros comme la paume de la main. Alors, une paume de main, c'est pas un terrain de football, hein, quand même. Hein. Ou alors, attendez. Ouais. Hein? Je ne sais pas. Il y a des grandes mains, il y a des petites mains. Mais c'est pas grand chose, hein. Je ne sais pas combien de centimètres carrés que ça peut faire, hein. Voilà. C'est pas grand chose, hein. Ça dépend de la taille de l'individu, naturellement. Mais, un petit nuage qui est à l'horizon, qui est gros comme ça. Est-ce que on pourrait le voir, hein? Un petit nuage qui se voit quand même, parce que il ne veut pas être confondu. Il est tellement blanc sur un ciel bleu. Ça se voit, vous comprenez? Le fond, il est bleu, il est d'azur. C'est ça le ciel de Dieu, vous comprenez? Alors ça apparaît, une petite trace. Mais c'est un miracle après 3 ans et demi, hein, de voir un nuage. Vous vous rendez compte? Vous savez, les gens qui sont dans les régions subtropicales, hein, ou équatorial, enfin, quoi qu'il y a de la pluie là-bas quand même, mais dans les régions intermédiaires, vous savez, hein, ils sont souvent tournés vers le ciel, hein, parce qu'ils en ont besoin. Ils savent très bien que l'absence d'eau, eh bien, c'est la mort. Alors, gros comme la paume de la main d'un homme. Et ça nous amène à réfléchir aussi sur une question, ce petit nuage gros comme ça. C'est pas grand-chose. Je voudrais parler de la nature des petits nuages. Si vous permettez. C'est simple à comprendre, vous allez voir. Parce que ça semble rien du tout. Ça semble insignifiant. Mais si vous regardez, si vous observez bien tout le... Comment dire, hein, toute la texture ou toute la fibre du message de l'Évangile avec Dieu ou l'œuvre de Dieu, ça commence toujours par quelque chose de petit. Jamais par du grand, toujours par du petit, à l'image d'une petite graine, d'une petite semence. À l'image d'un petit enfant qui s'appelle Jésus, qui naît dans une crèche. À l'image des petites choses. À l'image des choses qui ne paraissent pas. Des choses qui n'ont pas de relief, qui n'ont pas d'envergure, qui n'ont pas même de prestance. Paul l'a bien compris parce qu'il dira, Dieu a fait ces choses et il a voulu que les choses soient comme ça. Avant de remplir l'univers, il a voulu que ça commence par la poussière. Un petit grain de poussière. Mais l'agglomération ou l'agglomérat de poussière, eh bien, ça fait une planète, vous comprenez? Et puis, nous sommes aussi, un agglomérat de poussière, ça fait un homme. De rien du tout, vous comprenez? Ça, c'est sûr. Alors, comme la paume de la main, vous savez, chez le centenier romain, qui est venu prier, solliciter Jésus un beau jour, parce qu'il était dans une grande détresse pour un de ses serviteurs qu'il aimait beaucoup. Peut-être le considérait-il même comme son père. Il était prêt de mourir, son serviteur. Et ce centenier, eh bien, il avait un petit nuage lui aussi, qui a permis de dire des choses extraordinaires dans sa prière. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais tu dis une parole, eh bien, ça suffira. Ça, c'est un petit nuage, vous comprenez. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle l'humilité dans la foi. Les petits nuages comme ça. Gros comme la paume de la main. Ça ne veut rien dire. Et pourtant, ce centenier, quand il est arrivé chez lui, son serviteur, il était guéri. Il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Si je vous parle, par exemple, de la Cananéenne, elle avait aussi un petit nuage. C'est pas qu'elle était dans les nuages, mais elle avait son petit nuage. Et son petit nuage, c'était parce que elle possédait ce que beaucoup d'hommes ne possèdent pas. Elle avait une intelligence, mais pas n'importe laquelle. Une intelligence de l'esprit. Une intelligence qui lui était donnée par Dieu. Quand elle a dit, et c'était aussi signé avec de l'humilité, « Tu sais, Seigneur, moi, si je peux pas manger à la table des maîtres, ben moi, je veux bien être considéré comme un petit chien, qui est un animal que l'on chasse, un animal maudit. Mais moi, je veux bien être un petit chien pour aller manger sous la table des maîtres, parce que ce qu'il y tombe, les miettes qui tombent, ben, ce sont des miracles et des choses extraordinaires. Son petit nuage à elle, ben, c'était ça, cette intelligence spirituelle. Elle a compris tout de suite ce qu'il fallait faire. Ben, son petit nuage, il s'est transformé. Que quand elle est rentrée chez elle, sa fille qui était possédée était devenue tout simplement à l'état normal. Elle avait retrouvé tout son sens. Si je vous parle de Jaïrus, alors lui il est bien Jaïrus. Parce que c'est pareil, hein, il vient dans une grande détresse vers Jésus. Eh bien, le petit nuage de Jaïrus, qui à tout moment de ce cheminement terrible, pénible, impossible, ce petit nuage qui manque d'être crevé à chaque fois, parce que les uns s'interposent, comme la femme à la perte de sang, comme ces gens qui viennent lui dire avec raison « mais ta fille est morte, c'est pas la peine d'aller plus loin », les gens qui se moquent, les gens qui vont le faire chavirer sentimentalement en lui disant « mais ne pleure pas, et ceci et cela, bon, hein, ça va, c'est bon ». Son petit nuage, il est entre eux, il va disparaître dans le ciel bleu, hein, il va rester rien du tout. Ben, vous savez ce que c'est, ce petit nuage à Jaïrus, c'est que devant tous les défis, tous les obstacles et tous les contretemps, il ne se laisse pas dissuader, il dit « j'irai et j'irai jusqu'au bout ». C'est ça son petit nuage à lui, gros comme la paume de la main. Et qui pouvait aboutir, non pas seulement à la résurrection de sa fille, parce qu'elle était déjà morte, mais morte, c'est Jésus qui l'a ressuscité. Vous voyez où ça peut nous emmener, les petits nuages? Il y a toutes sortes de situations comme ça, j'en passe, hein, qui ne me viennent pas toujours à l'esprit. La femme incurable dans l'histoire de Jaïrus, hein, parce qu'elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, ben son petit nuage à elle, c'était tout simplement de le pousser avec son doigt jusqu'à ce que son doigt touche le pan de la robe de Jésus en disant « si je peux le toucher, je serai guéri ». Elle a touché et elle a été guérie. Gros comme la paume de la main, rien du tout, personne s'en est aperçu, personne n'aurait pu deviner qu'il y avait derrière son petit nuage. Eh bien, finalement, la guérison. Le paralytique de Bethesda, son nuage à lui, de rien du tout, c'est qu'il a attendu 38 ans. Et son nuage, qui passait au-dessus de sa tête peut-être tous les jours, hein, même quand il voyait l'eau s'agiter et puis que c'était les autres qui allaient, eh bien, ça a été sa patience à lui. Un jour, je serai guéri. Et quand Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche, eh bien, je peux vous dire que t'es gros comme la paume de la main. Il n'avait aucune chance, lui. Hein. Être le premier, il ne pouvait pas marcher. Tous les autres couraient pour arriver, justement, si vous connaissez le contexte. La patience. Puis Bartimée, encore un autre. Vous savez, ils ont tous un petit nuage gros comme la paume de la main. Et nous avons eu, dans notre cheminement chrétien, des nuages gros comme la paume de la main, mais au contraire, heureusement que nous avons regardé et que nous avons persévéré, même si ce n'était rien au commencement, au départ. Et heureusement que Dieu nous a donné de persévérer. Bartimée, ouais, tout le monde est là autour de lui en disant « tais-toi !» Et on est en train de le prendre par les épaules. Il est aveugle, hein, Bartimée, hein. Il peut pas voir rien du tout. Dans tous les cas, il n'est pas sourd. Et les gens le prennent et le rassoient dans le fond du fossé en disant « Maintenant, tu arrêtes de nous importuner, tu cries trop fort, alors tais-toi. » Et vous savez que notre Bartimée, eh bien, il insiste pour se lever et se faire entendre puisqu'il nous est dit qu'il criait. C'était gros comme la paume de la main, mais c'est devenu quelque chose de monstrueux parce que plus on essayait de le faire taire, plus il criait plus fort. Son nuage est devenu véritablement, eh bien là, quelque chose de, hein, une amplification. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On va terminer. Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est gros comme la paume de la main d'un homme. Élie lui dit « monte » et dit à Acab « attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête point en peu d'instants. Le ciel s'obscurcit par les nuages. Alors on n'est plus dans un petit nuage, on est dans les nuages. Le vent s'est établi pour montrer qu'il va y avoir, eh bien, une pérennité, qu'il va y avoir de la durée dans ce que Dieu va faire. Quand Dieu bénit un homme, c'est pas pour un instant, c'est pas pour une fraction de seconde qui va produire une émotion, mais quand Dieu nous bénit et il ne renie pas ce qu'il fait. Alors, le vent s'est établi et il y eut une forte pluie. Alors qu'est-ce que ça veut dire une forte pluie? Ça a dû être quelque chose, hein? C'était pas les pluies d'orage qui passent et puis qui disparaissent aussitôt, parce que on voit, hein, ça fume de tous les côtés, mais là, ça tombe, ça ne s'arrête pas. Et la terre est inondée. Le mont Carmel, eh bien, découle. Eh bien, de cette pluie. Et ça tombe d'en haut, sur le lieu fertile, et ça descend sur la terre où sont les hommes, qui sont en train de mourir. Ah, c'est la joie. C'est le bonheur de voir la pluie tomber, naturellement. Il y eut une forte pluie. La conclusion, elle pourrait être celle-ci, si vous voulez. Pour chacun d'entre nous, interpellé par ce message, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour que la pluie ne tombât pas, et la pluie s'arrêta. Élie pria pour que la pluie tombe, et la pluie est tombée. Alors, nous avons besoin de commencer par croire aux petits nuages, sans être des éthérés et des illuminés ou des fanatiques, à toutes ces choses que l'on pourrait parler d'insignifiance, à toutes ces choses qui viennent du ciel et qui font souvent hausser les épaules des hommes en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Dans un monde rationaliste comme le nôtre, dans un monde cartésien, dans un monde où nous analysons tout, et de croire que le Dieu dans lequel nous mettons notre confiance est un Dieu de sagesse, est un Dieu qui sait ce qu'il fait, qui ne commence pas par écraser la terre avec toute sa puissance, mais qui nous interpelle et qui interpelle son humanité, qui interpelle les hommes que nous sommes et les croyants qui quelquefois peuvent douter, eh bien par des petites choses. Est-ce que tu crois d'une petite chose, elle peut devenir une grande chose? Est-ce que tu crois que d'une petite situation qui t'arrive comme ça, et qui te réconforte et qui te donne de l'espoir, peut déboucher sur une véritable délivrance, sur ta guérison et ton salut. Alors, toutes ces choses que l'on peut nommer insignifiantes, sans intérêt, même pas dignes d'être pris en considération, et de ces petites choses où l'on verra le ciel et répandre sur nos vies, eh bien, des pluies d'abondance. Oui, des pluies d'abondance. Ce jour-là, parce qu'Élie a prié, la prière fervente d'Élie a apporté à la terre et dans ce contexte historique, eh bien, une pluie d'abondance. Vous savez, quand un homme se convertit, quand il se tourne vers le Seigneur, c'est vrai que nous montons au Carmel, hein, en quelque sorte, selon la signification, sans trop nous en apercevoir. Mais on s'aperçoit que quand on commence à comprendre la signification de la puissance et de l'autorité de la prière de la foi, alors ça nous engage véritablement, eh bien, à monter vers le Seigneur. La prière, c'est monter vers Dieu. C'est monter dans la chambre haute. C'est monter et nous rapprocher du Seigneur pour que ce qu'il a prévu et les trésors de grâce qu'il nous réserve, c'est quelque chose de formidable. Et même si ça commence par des choses insignifiantes et des petites choses, parce que c'est la promesse que Dieu va répandre sur nos vies, sur nos âmes, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos corps, dans nos cœurs, eh bien, des pluies abondantes de bénédictions et de tout ce que nous pouvons avoir besoin. En conclusion, un des prophètes de la Bible, je crois que c'est Jérémie qui dit cela, ça sera vérifié, mais ça n'a pas trop d'importance. Le prophète dit ceci: ne méprisez pas les faibles commencements. Ouais. Et vous savez, nous sommes dans une société où les hommes méprisent beaucoup ce qui ne paraît pas, ce qui, quelque part, est insignifiant, ce qui est petit, ce qui est chétif, ce qui est pauvre, ce qui n'a pas trop d'intérêt à première vue, parce qu'on fonctionne avec la vue, vous comprenez. On aime bien le clinquant, on aime bien ce qui brille. On aime bien les choses qui font de l'effet, qui ne sont qu'apparence, mais qui sont vides à l'intérieur. Ouais. Mais pourtant, le prophète dit, mais ne méprisez pas les faibles commencements. Comme un agriculteur ne méprise pas, eh bien, la petite graine qui va déposer dans son champ en disant, mais c'est rien du tout. Vous n'allez pas me faire croire que je vais remplir des sacs et que je vais avoir des quintaux de blé avec ça. Eh bien, s'il fait ça, c'est que c'est un sot et un ignorant, il n'est pas intelligent. Parce que de ça, eh bien, toute sa vie va en dépendre et il peut s'enrichir. Eh bien, nous sommes dans une société où nous regardons à ce qui frappe les yeux. Eh bien, on comprend que notre monde n'est pas prêt de voir le miracle et la grâce de Dieu. Parce que on est méprisant. On juge, on condamne. Et pourtant, Dieu s'approche des hommes en disant, écoute, tu vois, je suis pourtant le grand Dieu tout-puissant. C'est moi qui règne dans le ciel et sur la terre. C'est moi qui suis le créateur de l'univers infini. Et je viens à toi pour ne pas t'effrayer, pour ne pas te faire peur. Je viens à toi avec des petites choses parce qu'elles sont à ton niveau. Et nous, on dit tout simplement, si Dieu voulait me parler, il se mettrait véritablement à un autre niveau parce que je suis quelqu'un. C'est précisément parce que Dieu veut nous sauver qu'il ne nous écrase pas avec sa puissance. Et qu'il nous parle à travers des petites choses qui sont à notre portée. Ne méprisez pas les faibles commencements, parce que de ces faibles commencements, eh bien avec Dieu, ça peut faire des choses extraordinaires et merveilleuses, et des choses éternelles. Alors tous ces petits riens qui sont autour de nous, si nous savons les discerner avec l'Esprit de Dieu, si nous les sentons au fond de notre cœur, si nous sentons que dans sa parole il y a des promesses, et sur lesquelles promesses certaines nous accrochons, et nous disons, Seigneur, je crois que tu m'as parlé, je crois que tu vas faire, je crois que tu vas me donner, ben continuez à croire. Parce que là, vous allez voir quelque chose qui va se passer. Et les petits riens qui bouleversent la vie d'un homme, qui peuvent bouleverser le monde et qui sont capables de bouleverser l'univers, ben c'est Dieu qui va le produire. En tous les cas, restons dans la foi. Persévérons dans la foi. Et si nous devons remonter 7 fois jusqu'en haut de la montagne, eh bien allons-y 7 fois, parce que la 7e fois, ça sera la bonne. Vous savez pourquoi ? Parce que le chiffre 7 dans la Bible, c'est le livre de l'accomplissement parfait et total de Dieu. Alors faisons-le confiance, persévérons, mais ne méprisez pas les faibles choses et les petits riens. Un petit nuage, gros comme la paume de la main, ça peut bouleverser et transformer notre vie. On va prier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ça commence toujours comme ça avec toi. Ça commence par un embryon, ça commence par un gène, par des choses insignifiantes ou sur lesquelles, eh bien, nous ne faisons pas attention en pensant que nous sommes plus grands que tout le reste. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, tu as formé à l'homme un cœur qui est comme un terrain pour que la semence de ta parole vienne et soit déposée dans ce terrain et produise de la foi. Et cette foi, eh bien, elle produira en effet, Seigneur, des grandes choses, des grandes œuvres de Dieu. Elle produira, Seigneur, le miracle. Elle produira, eh bien, Seigneur, notre propre salut. Elle produira, en effet, Seigneur, une vie de bénédiction. Mais Seigneur, même si c'est gros comme un petit nuage, même si c'est grand comme la surface de la paume de la main d'un homme, eh bien, donne-nous, Seigneur, de pouvoir continuer à y croire. Parce qu'en effet, Seigneur, c'est toi qui étends nos cordages et qui, en effet, Père éternel, élargit l'espace de notre temps, de notre vie, de notre intelligence, de notre cœur, de notre esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole ce soir. Je te demande de nous visiter, Seigneur, nous qui l'entendons. Je te demande, Seigneur, qu'elle soit portée très loin, cette parole, de telle manière que, véritablement, des hommes et des femmes, Seigneur, puissent l'entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qu'il en soit ainsi, parce que c'est ton salut, Seigneur. Le but à atteindre, c'est le salut de Dieu en Jésus-Christ. Merci, mon Sauveur. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.